Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzituka Bambi.
La première ministre de la RDC consulte en vue de la formation du prochain gouvernement. Judith Souminois a parlé hier avec les leaders de l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle. Il s'agit de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Modeste Bahati de l'AFDC, Jean-Pierre Bemba du MLC et Vital Kamerhe de l'UNC. Évaluer la situation des déplacés pour leur apporter une réponse d'urgence, c'est la mission que vient d'effectuer au sud du territoire de Lubero les humanitaires conduits par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. C'est pour évaluer les besoins de ces déplacés qui ont fui l'occupation de certaines localités du territoire de Rutshuru. Professeur Léopold Kondaloko est l'invité de ce journal. L'enseignant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa parle du renouvellement de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, ne doit concerner que les juges ayant atteint 9 ans de mandat. Bonjour à tous. Formation du futur gouvernement de la RDC. La première ministre consulte les leaders de l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle. Ce jeudi à Kinshasa, Judith Souminois a reçu tour à tour Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Modeste Bahati de l'AFDC, Jean-Pierre Bemba du MLC et Vital Kamerhe de l'UNC. Ce dernier a déclaré à la sortie de cette audience, je cite, « Nous pensons que notre pays, avec ses ressources naturelles et humaines, si nous donnons la chance de gouverner à Madame Souminois, sans beaucoup d'interférences, elle va apporter le changement. » On écoute Vital Kamerhe dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première Ministre Souminois Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN. Parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, je suis content, et pas seulement du critère d'être femme, l'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Qu'il s'agit d'une femme qui a un background, mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Mme Souminois, effectivement, nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences et va apporter le changement.
Au Nord-Kivu, des milliers de déplacés qui ont fui l'occupation par le M23 de certaines localités du territoire de Rutshuru expriment plusieurs besoins dans le sud du territoire de Lubero où ils ont trouvé refuge. C'est le constat de plus de 20 organisations humanitaires qui viennent d'effectuer une mission dans la zone. Conduite par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, la mission avait pour objectif d'évaluer la situation des déplacés en vue de leur apporter une réponse d'urgence. Martial Papimukeba pour les détails.
Dans les rapports publiés le 2 avril dernier, ces ONG affirment que pour le seul mois de mars, près de 168 000 personnes, l'équivalent de 33 576 ménages déplacés en provenance des localités de Kibirizi, Katwe, Nyanzale, sont arrivés dans plusieurs entités du sud Lubero. Ils sont concentrés dans la commune rurale de Kanyabayonga ainsi que dans les localités de Kasehe, Miobwe, Luofu, Miriki et Mbwavinywa. À ces nouveaux déplacés s'ajoutent près de 100 000 autres personnes déplacées déjà présentes dans la zone depuis le dernier trimestre de 2023, précisent les rapports. Leurs besoins sont immenses car ces personnes manquent de tout. Abri, vivres, eau, hygiène et médicaments. Les humanitaires disent par ailleurs qu'actuellement, plusieurs enfants en bas âge, des femmes enceintes et allaitantes sont en situation nutritionnelle d'urgence dans la zone de santé des Kaina. Ils souffrent pour certains de malnutrition sévère et aiguë et pour d'autres de malnutrition globale. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la situation a été calme hier sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Selon nos sources, il s'agit d'un calme précaire après des combats dans la matinée de mercredi aux alentours du village Chacha, groupement de Mufunishanga, territoire de Masisi. Des affrontements ont opposé dans la zone de groupes armés locaux aux rebelles du 1-23, précisément autour des collines de Ndumba et Muremure. D'autres combats ont opposé les mêmes forces autour du village Bihambwe dans le territoire de Masisi. Nos sources ne mentionnent aucune avancée de deux forces belligérantes. Chacha reste toujours occupé par le 1-23 et les groupes armés locaux occupent aussi leur propre position. Et puis la nouvelle représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO se dit engagée dans la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne aux côtés des autorités congolaises. Viviane Van de Pierre, qui succède à Kassim Diane à cette fonction, a présenté ce jeudi les civilités au gouverneur du Nord Kivu. Elle se dit consciente des enjeux et défis sécuritaires actuels dans l'est de la RDC. Viviane Van de Pierre est au micro de la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Je suis ravie d'être à Goma et je suis venue rendre une visite courtoisie au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Je suis arrivée en RDC le 31 mars à Kinshasa, où j'ai pu tenir des consultations avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur, ainsi qu'avec la communauté diplomatique et le système des Nations Unies. Je suis consciente des enjeux et des défis de protection dans l'Est de la RDC. Et je suis très engagée pour travailler ensemble avec les autorités provinciales pour la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et appuyer la population.
En Ituri, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, demande à l'auditorat militaire d'ouvrir des enquêtes pour dénicher des auteurs du meurtre de plus de 30 personnes samedi dernier à Galaï, village situé à 42 km de la cité minière de Mungwalu dans le territoire de Djougou. Cette structure qui regroupe toutes les communautés de la province a adressé cette requête hier au cours d'un point de presse à Bounia. Michel Meta, son président, déplore ces tueries perpétrées par des groupes armés engagés dans le processus de paix en violation de leur acte d'engagement. Il demande également à l'exécutif provincial d'installer une base militaire dans la région pour la protection des civils. Michel Meta est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Il y a plus de 30 personnes innocemment massacrées à Galaï, en territoire de Djougou. Nous demandons à l'auditorat militaire de l'Ituri de diligenter une enquête très rapidement pour mettre la main sur le fauteur de troubles dans cette région. Au gouverneur militaire de la province de l'Ituri de descendre personnellement à Galaï pour s'imprégner de la situation de la population en souffrance. Au besoin, installer ce gouvernement militaire à Djougou pour contrôler de près chaque mouvement des groupes armés. Tous les groupes armés doivent comprendre que l'heure de la paix a sonné. Depuis 2017 jusqu'à nos jours, personne n'a gagné, sinon c'est l'Ituri qui a perdu. Ça ne sert à rien de tuer ses frères et ouvrir la porte aux ennemis de l'Ituri à gagner sur le sang des Ituriens. Arrêtons de tuer vos propres frères. Ça ne sert à rien.
Fin hier jeudi à Lubumbashi de la première édition de la conférence sur l'import-export, placée sous le thème « Faire de la fluidité du commerce international un enjeu de taille pour l'amélioration du climat des affaires », ce forum a été organisé par le ministère du Commerce extérieur en partenariat avec l'Association nationale pour la promotion des exportations. L'objectif était de chercher des solutions notamment aux problèmes d'engorgement à la frontière de Kasumbalesa, Jean Gandou.
La RDC, au regard de sa position et de ses potentialités économiques, est ouverte au monde des affaires à travers les échanges commerciaux. Il importe que plusieurs facteurs soient pris en compte, c'est notamment la fluidité du trafic. À Kasumbalesa, il y a plus ou moins 700 camions qui traversent chaque jour la frontière, tant à l'import qu'à l'export. L'engorgement des corridors de transport, la gestion inefficace des parkings, la multiplicité des plateformes intervenant dans les opérations d'import-export, la faible numérisation des procédures douanières et administratives et autres sont les défis à relever. Il est donc question de chercher les solutions idoines, car plus les camions traînent, plus ils perdent de temps, ce qui occasionne aussi des dépenses. Considérant l'importance de cette question, le président provincial de la FEC dans le Haut-Katanga salue la tenue de cette première conférence et apporte des précisions suivantes. Patrick Mouland.
Ne perdons pas de vue aujourd'hui que la route de Kasumbalesa n'était pas une route au départ qui était destinée au trafic international tel que nous le connaissons maintenant. L'évacuation des produits miniers ou même l'importation des produits miniers dans la structuration du commerce international de l'époque avait été fait et misé sur le rail. Aujourd'hui, le rail est obsolète. Tout se déverse sur une route qui n'a pas été modernisée.
Les propositions des participants auront pour objectif l'harmonisation du climat des affaires. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, l'entreprise Transco a reçu 10 nouveaux bus Mercedes 9. Ils sortent tout droit des ateliers et de montage de l'entreprise suprême automobile installée dans la capitale congolaise. C'est le ministre des Transports qui a remis symboliquement ce jeudi à Kinshasa ces bus en présence des représentants de deux sociétés. Cette remise amène à 31 le nombre de bus reçus de suprême automobile sur les 230 attendus selon le DG de Transco. On écoute le ministre des Transports Marc Ekila dans cet extrait choisi par Marie-France Mungindo.
Au mois de mai, quand nous sommes allés inaugurer cet atelier, je veux dire, cette usine, avec le chef de l'État, nous avons eu les commentaires de toutes les sortes. Personne n'avait cru qu'on pouvait monter des bus ici. Et voilà, nous avons reçu un premier lot, malgré les difficultés que nous rencontrons, mais nous surmontons ça ensemble. Maintenant, nous avons un deuxième lot. J'ai roulé à bord, j'ai pu garantir la population congolaise que ces bus, ce sont des très, très, très bons. Ce sont sur le plan technique, mécanique, il y a même beaucoup d'améliorations. J'exhorte notre population à prendre ces bus. Je voudrais rappeler encore, comme nous avons convenu, que nous puissions, au regard du nombre de difficultés que nous rencontrons, de recevoir 10 à 12 bus mensuellement. Cela peut nous permettre de transporter dans de très bonnes conditions non seulement les Kino, mais les autres populations qui sont à l'intérieur du pays. Parce que le ministre que je suis, j'ai un rêve, c'est que les bus puissent quitter les chefs-lieux de province pour aller pourquoi pas dans les territoires. À Transco, je vais vous demander de garder les bus en bon père de famille.
Au sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega bénéficie de deux nouveaux programmes sur la conservation de la nature. Le lancement officiel a eu lieu le mercredi 10 avril au siège du parc en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Objectif, renforcer les droits des communautés locales et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Depuis Bukavu, Emmanuel Elamejo Akabedi.
Ces deux nouveaux programmes du PNKB visent le renforcement des droits des communautés locales et la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles. Pour l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlir, ces programmes visent à transférer des compétences aux communautés locales afin qu'elles-mêmes gèrent correctement la biodiversité.
Évidemment, c'est un programme qui est financé par le peuple américain. Ça veut dire que nous voulons transférer les compétences, les techniques, les méthodes pour assurer une durabilité de, pas forcément de programme, mais des objectifs du programme. Donc ça, c'est une des mesures de réussite si nous avons pu vraiment transférer soit au gouvernement local, soit aux communautés locales, cette compétence pour qu'eux-mêmes ils puissent gérer les programmes.
Avec ce nouveau programme OpenKB, il y aura création des initiatives génératrices de revenus, axées sur la conservation, capable de contribuer au financement durable des activités futures du parc. Yves Milangangai, directeur général de l'ICSN.
Ce programme vient de favoriser la coopération entre les différents acteurs engagés dans la préservation de notre environnement. Nous croyons fermement que la collaboration est la clé du succès pour protéger ces parcs.
Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retour à Kinshasa, mise au point du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, sur la grogne des assistants parlementaires de la dernière législature au sujet de leurs indemnités de sortie. Ce personnel politique réclame du bureau Mboso le paiement de plusieurs avantages, notamment les arriérés de salaire et des indemnités de sortie. En réaction, le cabinet de Christophe Mboso éclaire que le règlement intérieur de la législature passée reconnaissait les assistants parlementaires comme personnel politique attaché aux députés nationaux et leur salaire dépendait de la ligne budgétaire. Les détails dans ce condensé de Michel Kifindangoy, rendu par Murphy Fika.
Outre la revendication des arriérés des salaires et des indemnités de sortie, les assistants parlementaires accusent le bureau Mboso de la dernière législature de n'avoir pas signé la décision des nominations devant couvrir leur exercice conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Faux, rétorque le bureau Mbosso, affirmant que, par bonne foi et générosité, le président du bureau sortant, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et l'actuel président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a accepté de prendre en charge les assistants parlementaires. Mais la ligne budgétaire ne prévoit pas d'indemnité des sorties pour les assistants parlementaires, ajoute son cabinet. À ce stade, poursuit le cabinet du président de l'Assemblée nationale, il importe de relever que le président Mbosso Kodia a payé les personnels des cabinets Kamere, Boshab, Minaku ainsi que Mabunda. Pourquoi refuserait-il de payer les assistants parlementaires si le budget 2023 avait pris en compte cette catégorie de personnes politiques, s'interroge le cabinet.
Actualité internationale.
La junte au pouvoir au Mali a continué hier à sévir contre toute forme de contradiction en faisant interdire aux médias de couvrir les partis politiques après avoir suspendu les activités de ces derniers le mercredi jusqu'à nouvel ordre. Ces partis politiques et des associations à caractère politique sont coupables, selon eux, de subversion. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit profondément préoccupé par cette suspension des activités des partis. L'ancien premier ministre Moussa Mara a demandé aux autorités de revenir sur leur décision de suspension qu'il qualifie de recul majeur qui inaugure pas de lendemain apaisé.
L'invité.
À Radio Capu, nous clôturons le débat ouvert sur le renouvellement de la Cour constitutionnelle avec cette fois-ci l'éclairage qu'apporte un constitutionnaliste. Professeur Léopold Kondaloko enseigne le droit à la faculté de droit à l'Université de Kinshasa. Il nous éclaire sur le renouvellement de la Cour constitutionnelle qui ne doit concerner selon lui que les juges ayant atteint 9 ans de mandat. L'invité de Radio Capu s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Kondaloko, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff.
Est-ce qu'on peut dire que la Cour constitutionnelle, depuis le 4 avril de cette année, est devenue illégitime, illégale, comme le prétend une certaine opinion qui parle du renouvellement de la Cour constitutionnelle?
Mais je crois qu'avant de donner quelques éléments de réponse à votre question, vous savez, dans notre pays, les gens ont pris l'habitude de dramatiser les questions de droit, même si on a été à l'université, mais lorsqu'on n'a pas des connaissances suffisantes pour éclairer l'opinion, au lieu que les gens s'abstiennent à faire des commentaires, qu'ils disent n'importe quoi. Lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, vous savez quand même, à notre pays, vous avez une grande faculté, la faculté de droit est là. Pourquoi ne pas poser la question à la faculté de droit qui a des spécialistes pour éclairer l'opinion? Mais parce que les politiciens en ont pris l'habitude, chacun à sa manière, il vient interpréter la constitution, tout le monde devient constitutionnaliste, interpréter la constitution à sa manière. Lorsque vous parlez de la Cour constitutionnelle est une institution. Elle ne peut pas être ni illégale ni illégitime. En revanche, les animateurs de la Cour constitutionnelle, la Constitution et la loi prévoient que leur mandat est de 9 ans non renouvelable. Mais il se fait que les premiers juges, les premiers animateurs de la Cour constitutionnelle ont été nommés le 4 avril 2015. Ou 14-15, je crois.
Ils ont prêté serment le 4 avril 2015.
À le 4 avril 2024, ils ont totalisé 9 ans, conformément à la Constitution et à la loi. Maintenant, il faut faire le distinguo. Il y a de ceux qui sont là, qui ont fait 9 ans pleins, qui n'ont pas été remplacés, qui n'ont pas été tirés au sort. Ceux-là, automatiquement, doivent être remplacés.
Y a-t-il des conséquences juridiques dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle avec certains juges qui sont faits mandat?
En attendant qu'on puisse les remplacer, vous n'avez pas demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas siéger. Et s'il siège, quelle est la sanction que la loi ou la Constitution a prévue? Parce que les gens interprètent n'importe quoi. La Constitution n'a prévu aucune sanction, ni la loi contre la loi sur la Cour constitutionnelle.
Le renouvellement doit être partiel et il n'est pas total. Hein? Ce n'est pas tous les juges qui sont concernés par le renouvellement.
Le renouvellement est partiel et non pas total.
Et comment va-t-on procéder au remplacement de ceux qui ont atteint 9 ans?
Cela va se passer conformément à la loi, Jeff. Ce que la loi prévoit, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas faire d'une manière mécanique. Ce ne sont pas les politiciens, c'est la loi qui prévoit les modes de remplacement de ceux qui ont fini les 9 ans, de ceux qui sont venus continuer les mandats de certains juges pour constitutionnel et de ceux qui ont été tirés au sort. Parce que vous vous rappellerez, à l'époque où il y a eu deux professeurs d'université ont démissionné, au lieu de faire le tirage au sort, on les a remplacés automatiquement. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Mais il faut retenir que la Cour constitutionnelle est une institution éminemment politique. Il faut voir la façon dont les juges à la Cour constitutionnelle sont nommés. Il y a trois qui proviennent du quota du président de la République. Il y a trois qui proviennent de l'Assemblée nationale et trois qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, si dans ceux qui ont terminé leur mandat, il y en a qui sont du quota du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui va proposer les magistrats à remplacer. Si il relève du quota du président de la République, c'est le président de la République qui va désigner le juge à remplacer. Mais s'il relève du quota de l'Assemblée nationale, du Parlement, c'est le Parlement qui va désigner. Donc c'est de cette manière que les choses se passent.
Professeur Kondaloko, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Pétoguer. Merci.